Bonjour, c'est le Max Anthropic FM. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir au téléphone l'artiste de la semaine sur notre antenne, le chanteur et musicien Mathieu Bouguert. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous ai présenté comme un chanteur et musicien, ce qui est évidemment hyper réducteur. Il faudrait rajouter auteur, multi-instrumentiste, compositeur, réalisateur, arrangeur, mixeur, graphiste, acteur, voyageur ou documentariste. J'en ai oublié où j'ai fait à peu près le tour de vos différentes casquettes depuis près de 20 ans.
Oulala. Bon, après les casquettes, elles sont pas toutes de la même taille, hein, les petites casquettes, des petits chapeaux, tout n'est pas. Je suis documentariste, c'est un grand mot. Après effectivement, j'avais fait sur un album précédent un petit documentaire sur l'écriture du disque, mais j'assume pas trop cette casquette. Après, je suis aussi, j'aime bien manger, j'aime bien voyager, j'aime bien les femmes, j'aime bien. Après, les casquettes, on a tous beaucoup de casquettes si on fait le point.
Ouais. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un multi-instrumentiste et vous jouez autant de la guitare que de la basse, du clavier, de la batterie et d'autres instruments. Quel instrument passé entre vos mains vous résiste encore?
Je ne sais pas du tout jouer d'instrument avant. Alors, j'adore siffler, j'adore jouer du sifflet, mais après je me suis acheté une trompette il y a un an en me disant que j'allais peut-être m'y mettre, et finalement j'ai pas trouvé l'énergie de travailler, etc. Pour l'instant ça reste mais après je ne joue pas tout non plus, mais c'est vrai que j'ai commencé très tôt et très très vite j'ai joué un petit peu de tout.
Ouais.
Et maintenant c'est vrai que je suis incapable, parmi les quatre instruments que vous avez cités, je ne peux pas dire quel est mon instrument.
Donc avec tous les instruments que vous maîtrisez, vous êtes un groupe à vous tout seul. Hein, presque. Vous pourriez facilement vous passer de musicien sur scène et utiliser, par exemple, des samples. Vous avez besoin d'être entouré et de ne pas vous sentir seul sur scène.
Alors, ça dépend des étapes du travail. En fait, pour tout ce qui est écriture, composition, etc., au contraire, j'ai vraiment besoin de solitude. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pars souvent à l'étranger pour écrire, etc. C'est parce que j'ai besoin de cette sensation d'être un peu seul au monde et comme une retraite un peu que j'ai... Après, quand il est question de faire des concerts, j'ai fait beaucoup de concerts seul à la guitare, mais j'adore aussi jouer avec des musiciens, donc ça dépend, c'est une question. Après, c'est un choix qui se fait sur le moment. Mais en tout cas, je sens surtout le besoin de gens pour tourner, mais pour tout ce qui est composition et enregistrement, c'est vrai que je suis très solitaire.
Mmh. Alors, c'est facile pour un musicien d'entrer dans votre monde et d'apporter un regard extérieur à votre musique, puisque vous maîtrisez tous les principaux instruments et écrivez paroles et musique.
Je sais pas trop, j'ai du mal à mettre dans la tête des autres musiciens qui viennent. Après, c'est vrai que je suis assez directif. Enfin, plus je vieillis, plus je suis ouvert à ce qu'on peut me proposer, mais tout en étant ou en filtrant beaucoup, ça oui, ça non, ça non, ça oui, ça non. Mais au final, je crois que les gens qui ont travaillé avec moi étaient assez contents de la collaboration qu'on a pu avoir.
Ouais. Alors je le disais, vous maîtrisez bon nombre d'instruments et notamment la batterie qui est votre deuxième instrument de prédilection, puisqu'on vous l'avait offert, on vous en avait offert une en 1982, 3 ans après un orgue. Vos parents s'étaient rendus compte du bruit que ça allait faire chez eux, non?
Pas vraiment. En fait, j'avais la chance d'avoir un petit pavillon de banlieue, il y avait un sous-sol. Et donc la batterie était dans le sous-sol. Et en l'occurrence, c'est pas une batterie qu'on m'a offerte, mais c'est un ami de mon père qui était un peu batteur du dimanche et qui s'est fait virer de chez lui. Du coup, il n'avait pas d'endroit pour mettre sa batterie. Donc, sachant que mon père avait un pavillon, il l'a mis dans la cave et moi, c'est devenu mon jouet. Quoi.
D'accord. Alors, si je parle de votre batterie, c'est tout sauf un hasard. Hein. Il est à la base de la création des chansons de votre nouvel album en date, sorti le 3 novembre 2008. Pourquoi la batterie? Vous vouliez changer votre façon de concevoir la musique, tout simplement?
Exactement. En fait, tous les disques précédents, l'acteur principal des disques précédents, c'était toujours la mélodie. La mélodie était à l'initiative du morceau, et de cette mélodie émanait un texte, puis un arrangement, etc. Et donc, c'est pour ça que sur les disques précédents, je faisais des chansons très mélodieuses, assez romantiques, assez un peu fleur bleue, comme ça, un petit peu des chansons, des jolies chansons, entre guillemets. Et là, j'ai senti que j'avais envie de changer un peu de langage et de propos. Et donc j'ai un peu comme un dessinateur qui changerait un peu de pinceau ou de stylo pour tenter autre chose. Moi, j'ai plutôt que mettre une guitare entre les mains ou un piano, je me suis mis une batterie en disant que j'allais écrire une chanson en commençant par ça. Un petit peu comme les compositeurs de hip-hop font. C'est-à-dire, à mon avis, ils vont dans un studio, ils font tourner des rythmes en boucle et puis ils partent de ça et c'est ces rythmes-là qui leur inspire un phrasé puis une mélodie, mais c'est le rythme qui commence. Et donc j'ai voulu faire comme ça. Pour ça, je ne savais pas du tout ce sur quoi j'allais aboutir, et finalement j'ai abouti sur des chansons un petit peu moins sérieuse que les disques précédents, un petit peu plus rythmique forcément, et un peu plus répétitive aussi, parce que quand le rythme est la première brique à l'édifice, forcément c'est un rythme de batterie, c'est toujours sur un cycle assez court, donc finalement ça induit des mélodies assez courtes, assez répétitives, avec assez peu d'accords, un peu d'harmonie. Et ça a donné ce disque qui a un ton, à mon avis, un peu différent du précédent.
Mmh. Donc par rapport à une guitare, la façon d'écrire de la musique est totalement différente. Les rythmes sont forcément apparus en premier.
Oui, en fait, j'allais dans mon studio avec absolument aucune idée de ce que j'allais faire. D'habitude, le studio que j'avais, c'était toujours pour arranger une chanson qui existait déjà, que j'avais écrite en dehors du studio avec une guitare, comme ça. Voilà. Et puis le studio était là pour produire la chanson. Et là, j'ai fait le contraire. Donc j'ai commencé par un rythme, puis une ligne de basse, puis une guitare, et la voix est arrivée vraiment en dernier. Donc j'ai pris un peu j'ai fait la chose un peu à l'envers, mais finalement ça marche, quoi, ça fait des chansons. Et finalement, ces chansons-là, si jamais il faut les refaire à la guitare, ce qui a été le cas, parce que j'ai fait quelques promotions récemment où j'étais seul à la guitare, et donc je me suis mis à faire guitare-voix des chansons qui avaient été entamées à la batterie, et les gens ne se doutent pas une seconde qu'il a fallu tout ce processus pour en arriver là, alors que moi j'aurais jamais pu composer cette chanson à la guitare sans l'avoir cherché différemment.
Ouais. Alors quelle a été la place de la mélodie par rapport au rythme, justement?
La mélodie, elle a un petit peu moins de place pour vivre, elle est moins mise. Elle se greffe déjà à un décor qui existe déjà. Donc elle se fait plus répétitive, plus courte. Mais ce qui est pas grave, il y a des chansons que j'ai écrites qui sont sur les disques précédents, qui sont très très avec des mélodies qui se développent sur 24 mesures, très très sophistiquées comme ça. Et sur ce disque, au contraire, c'est plus répétitif, mais c'est pas moins bien, c'est autre chose, c'est un autre langage.
Mmh. Vous aviez aussi envie d'un album, vous le disiez, plus dansant, plus rigolo aussi?
Non, je suis pas parti avec un projet de ton. Je me suis pas dit oui, ce disque, je veux qu'il soit plus rigolo ou plus machin ou plus truc. Je voulais juste bouleverser un peu mes habitudes et éventuellement solliciter un autre aspect de ma créativité, de mon inspiration, justement en mettant un autre outil entre les mains. Je compare vraiment ça avec c'est comme si un peintre, il a toujours dessiné avec un crayon de papier. Du coup, un crayon de papier, il dessine des petites fleurs et des petites maisons. Puis d'un seul coup, il prend un gros marqueur et puis d'un seul coup, il a plus envie de dessiner des fleurs, mais il dessine un building et une Cadillac, parce qu'avec un gros feutre, il a plutôt envie de dessiner ça. Voilà. Donc c'est plutôt aller solliciter d'autres choses avec un autre outil.
Mmh. Ah, vous avez donc enregistré votre nouvel album à Bruxelles, où vous habitiez à l'époque. Ce changement géographique a un rapport avec ce changement de façon de travailler et de concevoir la musique?
Oui, parce que pour pouvoir écrire un disque dans ces conditions, il faut forcément un lieu pour accueillir un studio, parce que autant une chanson à la guitare, une guitare, on peut l'avoir en voyage, sur une plage, ou n'importe où, tandis que pour pouvoir composer à la batterie, forcément il faut une batterie, il faut un studio insonorisé, enfin ça implique d'autres choses. Et j'ai été chercher cet endroit à Bruxelles. Moi j'étais parisien, et à Bruxelles c'est vrai que c'est une ville assez accueillante, où il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup plus de place, donc l'immobilier est beaucoup moins cher, on trouve beaucoup plus facilement de l'espace pour ce genre de choses. Donc, ceci expliquant cela.
Mmh. Donc, à Bruxelles, vous avez enregistré dans un ex-stand de tir de la police transformé en studio.
Oui, tout à fait.
Alors quelque part, on peut assimiler le rythme des bruits des tirs au rythme de la batterie et des percussions. Ça vous a même marqué inconsciemment?
Alors, par définition, si ça m'a marqué inconsciemment, je ne sais pas. mais c'est probable. Effectivement, le lieu était donc un ancien stand de tir de la police avec très très gris, très une espèce de bunker insonorisé, qui était tout sauf bucolique. Donc peut-être que c'est cet endroit qui m'a donné envie de taper la caisse claire aussi fort et de jouer ce genre de choses. C'est possible, mais je me rends pas compte.
Ouais.
Après, les studios, c'est très très souvent dans un ancien garage, dans une ancienne cave, dans un ancien parking. Donc là, en l'occurrence, c'est un stand de tir de la police, mais c'est pas très original en soi que d'enregistrer dans un ancien truc, quoi.
Mmh, mmh. Donc le résultat, c'est la sortie le 3 novembre 2008 sur votre label Tôt ou Tard de votre 5e album studio I Love You.
Oui.
Alors à qui s'adresse cette déclaration d'amour, si c'en est une d'ailleurs?
Oui. En fait, c'est vachement délicat de trouver un titre à un album, parce que moi j'ai toujours écrit des chansons une par une, et donc d'un seul coup on les réunit par 12, par 13 sur un même support. Donc a priori, trouver un titre générique à 13 chansons, c'est impossible. Donc après, c'est pour ce qui est du titre d'album, c'est toujours très instinctif. D'un seul coup, il y a plusieurs possibilités. Puis hop, il y en a un, je me dis, ah, c'est ça. Et après, pourquoi je choisis ça plutôt qu'autre chose? C'est très inconscient, très spontané, très instinctif. Si je réfléchis, je pense que... En fait, il y a pas mal de chansons en anglais sur ce disque, c'est la première fois. Mmh. Je pense qu'elles sont en anglais aussi parce que le fait d'avoir commencé par des rythmes, bah, finalement, les mots qui me sont venus, ils étaient peut-être en anglais parce que je suis un peu conditionné à James Brown, ce truc-là que j'ai beaucoup écouté. Et du coup, j'avais envie que le titre de l'album soit en anglais. Mais c'est cet anglais un petit peu naïf, un peu gauche, un peu universel, mmh. voilà, comme I Love You, Do You Feel OK, ce genre d'anglais un peu simplifié.
Ouais.
Et finalement, ce ne sont que des chansons d'amour, et j'ai réalisé que toutes les chansons que j'ai écrites depuis que j'écris des chansons, elles sont toujours plus ou moins d'amour, et je crois que c'est parce que c'est la seule façon d'assumer pour moi une chanson, s'il faut que ça résonne avec quelque chose de profond en moi pour pouvoir assumer une chanson. Donc en gros, c'est 12 chansons d'amour, une sur deux en anglais, bah du coup l'album s'appelle I Love You. Mm-hmm. Voilà pourquoi.
D'accord. Dans vos chansons, vous mélangez le français et l'anglais. Les textes ont-ils forcément un sens ou c'est une façon un peu ludique d'appréhender les paroles et de faire sonner le rythme des mots et des notes?
Ah, pour moi, les chansons ont forcément un sens, bien entendu. Et dans une chanson, que ce soit la mélodie, le texte, l'arrangement, etc., il n'y a pas quelque chose que je privilégie plus. Donc une chanson a forcément un sens. Et dans un texte, je passe autant de temps sur le son du texte que sur son sens et sur son propos. Donc il n'y a pas un mot dans tous les textes que j'ai écrits qui est gratuit et qui ne serve pas le propos.
D'accord. Alors lorsque vous utilisez l'anglais dans vos chansons, on s'y retrouve forcément et ça nous rassure, hein, on s'identifie à vous, puis on se dit que vous aussi vous avez appris l'anglais à l'école, vous peut-être exprès ou réellement votre anglais est à l'image de ce que vous chantez?
Bah je parlais assez bien anglais, après... Je ne suis pas anglophone, ma langue maternelle c'est le français, donc la langue que j'ai naturellement en bouche c'est le français. Après j'ai aussi en bouche beaucoup de mots anglais parce qu'on baigne dans un environnement très anglophone. Par exemple à Paris il y a 3 fois plus de signes en anglais aujourd'hui qu'il n'y avait de signes allemands pendant l'occupation. C'est un exemple. Donc on est toujours en train, je t'envoie un mail, on rendez-vous au parking, je sais pas quoi faire. Bon. Donc après quand je vous dis rendez-vous au parking, je vous dis pas rendez-vous au parking, je dis rendez-vous au parking. Donc finalement, tous les mots d'anglais que j'ai utilisés, c'est ces mots-là qui sont comme ça à notre portée et que je chante avec ma langue, avec ma vraie voix et je ne prends pas d'accent. Mm-hmm. Parce que par définition, prendre un accent, ça voudrait dire faire semblant. Et le postulat même de chanter, de faire des disques, c'est pas de faire semblant.
D'accord. Alors lorsqu'on écoute ce nouvel album, on se dit que vous avez dû beaucoup vous amuser lorsque vous l'avez écrit et enregistré, en tout cas plus que pour l'album Michel. Le précédent opus était très intimiste et introspectif, vous voulez quelque chose de plus rock'n'roll, c'est ça, hein?
Bah, comme je vous l'ai dit, oui et non, je ne suis pas parti en me disant je vais faire un disque comme ça plutôt qu'autrement. Enfin, je me suis dit je vais le faire de cette façon et du coup ça va aboutir sur autre chose. En fait je ne peux pas me dire moi, je peux pas prendre ma guitare en me disant bon aujourd'hui... Essayer de composer une chanson rock plutôt que machin, je peux pas, ça marche pas. Ce qui marche, c'est, je ne crois aux chansons que celles qui tombent du ciel et qui viennent spontanément. Sauf que, pour que la spontanéité, enfin, pour que ce qui arrive spontanément soit différent, bah, je l'ai provoqué différemment. Et donc, c'est passé par ce studio, cette batterie, ces outils différents. Mais je n'avais aucune idée du disque que j'allais faire avant de commencer à écrire.
D'accord. Donc, comme à votre habitude, vous avez presque tout fait sur ce nouvel album. Plus les années passent et moins vous partagez votre art. Qu'en pense votre maison de disques tôt ou tard et son directeur artistique? Ils vous font une totale confiance?
Oui, après, moi, je suis très très indépendant et je me suis toujours présenté comme tel à tous les gens avec qui je travaille. Donc, globalement, je leur laisse pas trop trop le choix, sachant aussi que... Pour me sentir bien dans mon indépendance, j'ai tendance à, déjà, en général, avancer les frais. Ou là, en l'occurrence, le studio que j'avais à Bruxelles, c'est moi qui l'ai trouvé, c'était mon matériel, c'est moi qui ai un peu financé le truc. Et une fois qu'il était fini, bah, je l'ai vendu à la maison de disques. En gros, ça se passe comme ça. Comme ça, je le fais en toute indépendance et je peux pas avoir quelqu'un qui me dit oui, non, sinon je le fais pas. Voilà. Donc après, une fois que le truc était fini, ils auraient tout à fait pu me dire que ça les intéressait pas, mais ils étaient très intéressés. Donc voilà, c'est comme ça qu'on procède.
D'accord. On parlait de maison de disques. Vous aviez obtenu, vous, un succès conséquent à la fin des années 90 avec, entre autres, le morceau Ondulé. On vous entend beaucoup moins désormais. Alors, lorsqu'on connaît les difficultés des labels et leur façon de virer des artistes parce qu'ils ne vendent pas assez, je pense notamment à Françoise Breu, hein, que tôt ou tard n'a pas re-signé. Vous êtes inquiet, vous, pour la suite? Et Mathieu Boguer, c'est toujours une valeur sûre pour eux?
Alors, j'ai jamais vraiment été une valeur sûre pour qui que ce soit, je pense. ça a toujours été un peu fragile.
Mais pour nous aussi. Hein.
Enfin, en tout cas, en termes de potentiel commercial, après, pour l'instant, ça fait 15 ans que je fais exactement la musique que je veux, que j'en vis assez correctement, etc. Mais j'ai jamais vraiment fait gagner le gros lot à qui que ce soit. Donc j'avoue que c'est très fragile. Et puis le marché du disque s'est réellement effondré. Donc il y a vraiment beaucoup de raisons de s'inquiéter. Mais comme je suis pas vraiment un inquiet, j'ai tendance à pas m'inquiéter. Et puis de me dire que des idées. Ce qui peut plus m'inquiéter, c'est pas mon environnement professionnel, c'est plutôt ma capacité à avoir des nouvelles idées. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux pas du tout signer sur un papier que je serais capable et que j'aurais l'inspiration et le talent d'écrire un nouveau disque dans 2 ans. Pour l'instant, je sais pas. Donc ce qui m'inquiète plus, c'est ça, plus que le fait que les gens aient envie de me l'acheter ou pas.
Ouais, les gens ont toujours envie.
J'espère.
Eh ben merci Mathieu Bougard d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Bah de rien, merci à vous.
Rappelons que votre nouvel album I Love You donc est sorti depuis le 3 novembre 2008 et puis on peut se procurer un peu partout hein, sans oublier les autres albums quand même.
Tout à fait, et puis il y a une tournée dans toute la France. Si j'ai un site internet, c'est mathieubogart.com et il y a toutes les dates et tout ça.
Voilà, j'allais en parler. Et puis le plus important pour nous, vous serez en concert, en parlant de concert, à l'épicerie moderne à Faisin, à côté de Lyon, le jeudi 26 février 2009.
Exactement.
Voilà. Et ben Mathieu, bonne continuation. Bon concert, je dirais, continuez à nous surprendre comme vous avez réussi à le faire jusqu'à présent, et notamment avec votre dernier album I Love You.
D'accord.
Et puis à bientôt sur Tropic FM.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.